Patara.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Patara, l'émission politique de Radio Ndeke Luka qui a pour thème la problématique d'attribution des contrats et conventions en République centrafricaine. Dans un rapport parlementaire du 13 juillet, les élus de la nation ont recommandé l'arrêt sans condition de l'exploitation de l'or par les Chinois à Bozoum et Bossangwa. Les élus de la nation soupçonnent dans leur rapport l'opacité dans l'attribution du permis d'exploitation attribué aux opérateurs économiques chinois, la dégradation de l'environnement ayant entraîné la déviation de son lit le cours d'eau de l'Ouam et la dévastation des espèces aquatiques qui y vivent. Cependant, la recommandation des parlementaires contrarie la position officielle du gouvernement qui, par la voix du ministre des Mines, avait estimé qu'il n'y avait pas d'impact environnemental à Bozoum. Devant la tribune de l'Assemblée nationale, le premier ministre chef du gouvernement, Firmin Grébada, s'en était ouvertement pris au père Aurelio Gazera, qui a ouvertement décrié les abus de ces exploitants chinois de l'or dans cette localité en avril dernier. Entre-temps, ces entreprises venant sous couvert des coopératives font de l'exploitation industrielle en lieu et place de l'exploitation artisanale. Cet état de fait suscite le débat sur la moralité des entreprises opérant dans les mines à travers le pays. À Aba, par exemple, dans la Nanamambéré, Sosona Kombo dans la Mambéré KDI, sur le Sanga et aujourd'hui dans l'Ouam et l'Ouam Pendé, l'exploitation de l'or est parfois soldée par mort d'homme avec cohorte de ces violations décriées. Le gouvernement s'est montré désemparé et fait profil bas. Les rapports des experts du ministère de l'Environnement, des Mines et celui des députés en disent long. Mais le gouvernement n'est pas le seul dans cette situation. Ces opérateurs économiques chinois parviennent à offrir des pots de vin pour obtenir des élus des marchés. Pourtant, la constitution du 30 mars 2016 est explicite sur la signature des contrats et conventions. Question: comment et pourquoi en est-on arrivé là? Le gouvernement a-t-il réellement pris toutes les dispositions pour éviter ce désastre écologique et humain? Est-ce que la moralité des entreprises a été vérifiée et analysée? Quelle est la responsabilité des pouvoirs publics et des opérateurs économiques chinois dans cette affaire? Qu'en est-il de la réparation? Pour en débattre, nous recevons Bernard Dila, député de Ngaoundaye et porte-parole de l'Assemblée nationale. Honorable Bernard Dila, bonjour.
Bonjour Jean-Fernand.
Christian Guenebim, secrétaire national aux relations extérieures du KANKA et porte-parole du parti. Monsieur Guenebim, bonjour.
Bonjour Monsieur Koïna.
Nous recevons aussi Joseph Binoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, LCDH. Monsieur Binoumi, bonjour.
Bonjour.
Karl Blagué, sociologue, observateur de la vie politique centrafricaine. Monsieur Blagué, bonjour.
Bonjour Monsieur Koïna.
Au centre du débat, appelez-moi Jean-Fernand Koïna, à la technique Guy-Rémy Yamenindi. Nous précisons ici que toutes nos tentatives d'avoir les ministres des Mines, des Eaux et Forêts et de l'Environnement et du moins du parti MCU qui soutient le pouvoir de Bangui ont été vaines.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndeke Luka.
Honorable Bernard Dila, vous qui avez présidé la commission d'enquête parlementaire dans l'Ouam, comment pouvez-vous arriver à une conclusion qui contrarie de façon substantielle et structurelle la prise de position du gouvernement?
Je profite de ce micro pour saluer tous les auditeurs de Radio Ndeke Luka, saluer aussi toute cette population de l'Ouam Pendé, particulièrement de Bozoum, de l'Ouam Bossangwa, Ouam Bak. Voilà, à qui nous avons rendu cette visite-là et qui nous ont aussi aidés à avoir une idée claire sur ce qui se passe dans la région. Je crois que nous n'avons pas décrit autre chose que la réalité que nous avons vécue personnellement sur le terrain. Les membres du gouvernement ont effectué une mission dans la région quelques jours avant notre arrivée. Ils sont revenus, ils ont fait leur description de la situation. Ils ont décrit ce qu'ils ont vu. Et nous aussi, de notre côté, nous nous sommes rendus sur le terrain Nous avons, naturellement, et ça il faut le signaler, nous avons passé beaucoup plus du temps que les membres du gouvernement et donc nous sommes allés plus en profondeur.
Cela suppose que le rapport du gouvernement a été fait à la hâte avec une conclusion déjà connue d'avance.
Je ne peux pas juger voilà, de ce rapport des membres du gouvernement, mais ce que je peux relever, c'est qu'effectivement, la conclusion du rapport de cette mission gouvernementale qui a dit qu'il n'y a pas de gravité, je crois que c'est une déni vraiment de la réalité que nous avons, nous, constaté sur le terrain. Nous avons constaté, et avec amertume, comme je l'ai dit, et comme nous l'avons décrit dans le rapport, nous avons constaté totalement le contraire de cette réalité décrite par la mission gouvernementale qui a été dans la région. Nous avons constaté un dégât qu'on ne peut pas décrire, un dégât vraiment indicible. Nous avons vu le visage de l'OAM totalement défiguré. Nous avons vu comment la population dans sa globalité est en contradiction totale avec ce qui se pratique et ce qui se vit sur le terrain. Et ça, je crois que c'est une mission effectivement qui nous a permis de calmer aussi un peu la tension qui était déjà palpable dans la région. Vous savez que ce qui nous a poussé à aller le plus vite sur le terrain, c'est quand nous avons appris au-delà des tensions, au-delà de ce qui a été décrié par un certain père Aurelio qui a commencé à décrier, nous avons aussi su qu'il y avait une tension, le véhicule des Chinois était brûlé par la jeunesse là-bas, et donc il y avait une tension. Et comme nous savons déjà que par le passé, cette tension vers Sosona Kombo a fait des morts d'hommes. Les Chinois ont été assassinés et cela risquait aussi de mettre en difficulté notre relation entre la République centrafricaine et la Chine. Et tout ça, nous avons jugé urgent donc de mettre en place cette mission-là pour aller sur le terrain constater. Et effectivement, le résultat de notre constat est amer. La nature est en train d'être dégradée, dévastée. L'OAM est en train de perdre sa physionomie. Et je crois que quand l'OAM perd sa physionomie, quand l'OAM est dégradé, quand l'OAM est pollué, c'est toute une population qui est mise en péril. Parce que vous savez que l'OAM, c'est ce cours d'eau-là qui permet à ce millier de populations de l'OAM et de l'OAM Pendé jusqu'au Tchad d'exercer des activités agricoles, de pêche, d'élevage, de recherche minière. Tout ça, je crois que c'est ce cri d'alarme-là que nous, après notre mission, nous voulons lancer au gouvernement, que le gouvernement puisse prendre beaucoup plus sa responsabilité et essayer de voir clair. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires et je crois qu'au courant de ce débat, probablement, nous y reviendrons là-dessus.
Nous allons y revenir. Nous allons vers vous, monsieur Joseph Bindoumi. La loi en la matière a prévu avant l'attribution de marché ou de contrat d'exploitation de ce type, il faut nécessairement une étude d'impact environnemental. Mais aujourd'hui, le peuple centrafricain est devant les faits accomplis avec tout ce que vient de décrire le rapport des parlementaires. Vous qui êtes sur le dossier des droits humains, quelle a été votre première réaction par rapport à la publication de ce rapport qui fait état de la pollution et de dégradation des espèces et même de la vie humaine à Bozoum?
Je vous remercie beaucoup. Je remercie Ndekeluka de m'avoir convié à cette émission pour que nous puissions parler d'une question très importante. Mais je voudrais vous signaler que je félicite l'Assemblée nationale qui, après avoir reçu un certain nombre d'informations, a décidé d'envoyer sur le terrain une mission parlementaire d'enquête et pour une des rares fois, le rapport d'enquête a été rendu public. Nous pensons que c'est une bonne chose pour la démocratie dans notre pays et nous pensons aussi que les autres commissions d'enquête parlementaires qui ont été mises en place, notamment pour faire de la lumière sur des questions de détournement d'argent ou de concussion au sein des membres du Parlement, que ce rapport-là sera aussi rendu public et que notre peuple appréciera. Je voudrais dire que je félicite l'Assemblée ici parce que à un moment donné, notre Assemblée était descendue très bas avec les procédures de destitution de l'ancien président de l'Assemblée qui n'avait pas bénéficié d'une enquête parlementaire aussi sérieuse et qui avait fait l'objet de nombreuses critiques de la part de la société civile et de la communauté internationale. Mais aujourd'hui, donc, cette mission d'enquête qui a produit un rapport concluant est une très bonne chose pour notre démocratie. La deuxième question que vous me posez, c'est de dire que dit la loi par rapport à l'attribution
des contrats, des conventions,
des marchés industriels. Je voudrais vous dire que pour l'intérêt de nos auditeurs, que notre Constitution exige que, quand on veut attribuer un contrat minier comme c'est le cas, le Parlement devait être au courant. Et le Parlement aurait pu donner son avis. Mais en dehors du Parlement, je voudrais préciser ici que lorsque on veut créer une société industrielle, la première chose qu'on fait, c'est d'établir le cahier des charges. C'est-à-dire que vous dites qu'est-ce que vous voulez faire à l'endroit où vous voulez travailler. Et lorsque vous avez établi le cahier des charges, vous allez auprès des populations de la localité, vous faites ce qu'on appelle une audience publique. C'est-à-dire que la société qui veut travailler dans le secteur va rencontrer les populations du secteur pour leur dire « voilà ce que nous allons faire chez vous, et puis voilà l'étendue de notre marché, voilà les matériels que nous allons utiliser ». Et les populations ont le droit d'accepter ou de ne pas accepter. Par exemple, en ce qui concerne l'étude environnementale, les populations peuvent penser qu'ils boivent l'eau de l'OAM et qu'ils ne souhaiteraient pas que cette eau soit dégradée. De même que lorsqu'on va ouvrir des routes, on va traverser des plantations, on va traverser des cimetières, on va traverser des sites considérés comme patrimoine des villageois, il faudrait que ces villageois-là donnent leur avis préalable avant qu'on passe à l'exploitation. Et puis enfin, nous de la société civile, nous avons la possibilité d'aller regarder ce que les gens font sur le terrain par rapport à leur cahier de charges. Et puis nous avons le droit de mener des enquêtes d'études environnementales pour voir est-ce que vous avez bien respecté vos cahiers de charges, est-ce que ce que vous avez fait pour exploiter n'a pas commis des dégâts autour de l'environnement, et ces dégâts-là, comment vous allez faire pour les réparer quand vous aurez fini d'exploiter. Maintenant que nous avons la chance, Dieu merci, d'avoir le rapport d'enquête du Parlement, nous allons bientôt réagir pour que nous, en matière d'études environnementales, nous puissions commettre les experts centrafricains qui existent. Nous avons travaillé avec des experts comme Paul Dogo, qui est un expert environnemental. Je ne vais pas citer tout le monde ici, mais nous avons des experts. Et nous aussi, nous pouvons, puisque la République centrafricaine a pris l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITE, et que nous avons ici en République centrafricaine une organisation qui s'appelle Publier ce que vous payez, c'est-à-dire qui veut que tout ce qui se passe dans l'exploitation minière se fasse dans la transparence. Nous allons donc nous occuper rapidement de ce dossier.
Donc, si je vous comprends bien, vous êtes sur la trajectoire d'obtenir de l'État la réparation.
Ah non, nous sommes non seulement en train de demander à l'État de faire des réparations, mais nous allons faire une étude environnementale et les sociétés qui ont causer des dégâts environnementaux, doivent réparer ces dégâts-là. Il ne peut pas venir détruire l'OAM, il ne peut pas venir détruire les plantations et puis s'en aller. Ce n'est pas possible. Et je vous informe que la question que vous nous posez, nous sommes déçus depuis un certain temps, puisque les dégâts, aujourd'hui, c'est la KDI dans la Sangambaïré, c'est l'OAM et l'OAM Pendé, c'est la Lobaye. Ici, il y a beaucoup de zones de notre pays qui sont aujourd'hui mises sans dessous par des sociétés dont on ne sait pas comment ces sociétés-là sont arrivées. Et puis, qu'est-ce qu'ils versent à l'État centrafricain? Comment elles vont réparer les dégâts qu'elles ont causés à notre environnement?
Monsieur Christian Guenibem, vous êtes secrétaire national aux relations extérieures du KNK et porte-parole du parti. Vous vous dites très préoccupé par rapport aux dégâts environnementaux notés dans le rapport des élus. En quoi votre préoccupation est-elle justifiée aujourd'hui?
Je pense que la justification de cette préoccupation se trouve dans le rapport de l'enquête parlementaire. Ce rapport, lui, il fait état d'abord, je peux dire, de crimes environnementaux qui ont été commis. Lorsque le médecin chef de Bozoum vous dit que le taux d'avortement des femmes est multiplié par 10, lorsqu'on vous fait état d'un taux anormalement élevé de décès dans les villages de pêcheurs, lorsqu'on vous dit que les espèces aquatiques ont déserté ce qui reste du fleuve Ouam et que les hippopotames sont en divagation dans les plantations et propriétés alentours parce que ne pouvant plus vivre dans cette eau, je pense qu'il y a déjà là les éléments de la préoccupation. Mais plus loin que ça, le rapport nous fait état de choses gravissimes qui en appellent à la responsabilité du gouvernement. Premièrement, on nous dit que sur les différents sites envisagés, plus d'une quinzaine, aucun titre minier qui a été délivré n'a fait l'objet, et c'est le rapport qui le dit, n'a fait l'objet d'une autorisation préalable de l'Assemblée nationale telle que le prévoient les dispositions de la Constitution du 30 mars 2016, l'article 60 alinéa 3 qui prévoit que l'Assemblée nationale doit accorder son autorisation préalable avant la signature des conventions minières. Alors, ceux qui aiment jouer sur les mots viendront nous dire « Oui, mais une convention minière, ce n'est pas un titre minier. » Très bien, qu'à cela ne tienne. L'article 50 du code minier, c'est-à-dire la loi numéro 09.005 du 29 avril 2009, en son article 50, nous dit ceci.
lors de la délivrance d'un titre minier, l'État conclut obligatoirement avec le demandeur une convention minière définissant le régime spécifique des droits et obligations des parties relatifs aux titres miniers et aux investissements à réaliser. La question est la suivante. S'il y a des contrats qui ont été signés pour ces différents sites, pourquoi n'ont-ils pas fait l'objet d'une autorisation préalable de l'Assemblée nationale? Et s'il n'y a pas de contrat signé, donc qui n'aurait pas fait l'objet de l'autorisation de l'Assemblée nationale, à quel titre les titres miniers ont-ils été délivrés? Dans tous les cas, nous en concluons qu'il y a violation de la loi. Je le dis, ça interpelle la responsabilité des membres du gouvernement. C'est un premier aspect. Le second aspect, pourquoi notre inquiétude est-elle fondée? Mais le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme ici a fait un développement éloquent quant aux questions de réparation des dégâts environnementaux qui ont été causés. Mais la loi va plus loin. La loi prévoit que dans ce cadre-là, les sociétés qui veulent exercer doivent constituer un fonds dans les livres de la BEAC. La question, nous nous posons, est-ce que ce fonds est-il constitué pour la zone de Bozoum, Louam et Louam Pendé? Puisque là, c'est l'objet du rapport. Mais nous savons qu'il y a d'autres zones qui font l'objet d'exploitation minière anarchique. J'insiste, parce qu'on nous parle d'exploitation artisanale semi-mécanisée. Quand vous arrivez sur un site, vous avez 10 pelleteuses, 3 laveuses automatiques. Là, c'est de l'industriel, ce n'est plus de l'artisanal semi-mécanisé. Je suis désolé. Donc, ça devient de l'anarchie. Mais encore, la question, c'est, est-ce que les fonds ont été constitués? Et ensuite, qu'a-t-il été prévu en termes de réparation du préjudice environnemental? Quelles sont les sociétés ou les experts qui ont été désignés pour réparer les dégâts? Et c'est là que le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme est encore plus pertinent. Parce que qui va réparer? Le gouvernement? Mais nous ne leur faisons pas confiance, puisque aujourd'hui, ils ont cautionné ce qui s'est passé dans Louam Pendé. Je le dis et je l'affirme ici, le Premier ministre, les membres du gouvernement nous ont rassurés quant au fait que mais il n'y avait pas de risque majeur encouru par l'environnement, que l'exploitation qui se faisait là-bas ne posait pas de problème. C'est allé plus loin. Le Premier ministre a même accusé le père Aurelio Gazera de manière publique d'être un exploitant illégal des ressources minières de la localité, raison pour laquelle, mis en concurrence face à ces sociétés chinoises qui disposaient de plus de moyens, il se plaignait et tentait de soulever la population pour préserver son intérêt économique. C'était des accusations graves. Où en sommes-nous de ces accusations? Y a-t-il des enquêtes qui ont été menées? Quelles sont les conclusions? Nous attendons que les pouvoirs publics assument les propos qu'ils ont tenus. Mais moi, je dis ici que, à minima, lorsque le rapport recommande l'arrêt immédiat des travaux sur site, ça, c'est une évidence sur laquelle nous ne devions pas revenir. Mais à minima, les ministres des Mines, de l'Environnement, des Eaux et Forêts, qui ont envoyé une mission dont le rapport a conclu qu'il n'y avait aucun problème, ces ministres n'ont plus leur place dans le gouvernement aujourd'hui. Parce que nous avons des populations empoisonnées. Parce que nous avons, et comme l'a dit l'honorable Bernard Diela, nous avons un circuit économique qui est aujourd'hui mis en péril. Ces pêcheurs ne peuvent plus exercer d'activité. Savez-vous combien de personnes vivent de la pêche dans Louam Pendé et dans Louam? Les commerçantes qui nous commercialisent ici à Bangui, sur la place du marché, le poisson en provenance de Bouka, de Bossangwa et autres, n'auront plus d'activité. Savez-vous combien de milliers de personnes sont impactées? Des gens qui ne pourront plus envoyer leurs enfants à l'école, des gens qui ne pourront plus se soigner, des gens qui ne pourront plus tout simplement avoir à manger. Parce qu'aujourd'hui, nous oublions que dans ces zones, les gens ne cultivent pas. Ces zones aujourd'hui qui sont en proie aux groupes armés et aux bandes criminelles qui écument l'arrière-pays. Et que tout ce qui leur reste comme activité, c'est ce secteur de la pêche qui aujourd'hui est complètement détruit. J'en terminerai en vous disant que la menace qui plane aujourd'hui sur nous, c'est l'invasion par des bandes de criminalité organisée qui se sont mis en place autour du secteur de la transhumance et de l'élevage bovin, parce que l'OAM coule vers le Tchad, hein, et ne coule pas du Tchad vers nous, il coule vers le Tchad. Aujourd'hui, il y a des soupçons d'empoisonnement de l'eau au mercure, des soupçons d'empoisonnement de l'eau au cyanure, et cette eau empoisonnée qui arrive au Tchad et que ces éleveurs ne pourront plus faire consommer à leurs bêtes, qu'est-ce qu'ils feront d'après vous? Ben, ils vont traverser. Ils vont rentrer ici à la recherche d'eau potable pour leurs animaux. Quand on sait qu'au Tchad, près de 30% du PIB provient du secteur de l'élevage, ces gens qui vont traverser avec armes, avec bagages, avec leurs familles, vont représenter encore une pression démographique et une menace sécuritaire. Voilà là où le gouvernement nous a amenés, en prenant à la légère un problème qui a été soulevé depuis plusieurs semaines et que aujourd'hui nous remercions l'Assemblée nationale d'avoir apporté la lumière. Voilà d'où proviennent nos inquiétudes au Kwanakwa.
Ok, nous comprenons vos inquiétudes telles que développées ici. Nous nous tournons vers vous, Monsieur Karl Blaguet, vous qui observez la vie politique centrafricaine. quelle a été votre première réaction sur la moralité aujourd'hui de nos institutions, dès lors qu'ils donnent des attributions, ils donnent leur accord, mais qui n'arrivent pas à assumer la notion de redevabilité vis-à-vis du peuple? Comment comprenez-vous? Est-ce qu'il y a eu déficit de la démocratie et de la gouvernance démocratique aujourd'hui en République centrafricaine?
Merci, Monsieur Kouena. Tout comme tout centrafricain lambda, j'ai été édifié et informé à travers le rapport d'enquête parlementaire. Un rapport qui m'a beaucoup édifié, hein, comme tout autre centrafricain. Ce que j'ai constaté d'abord, il y a eu un non-respect des procédures. Il n'y a pas eu d'impact ou d'études environnementales ni sociales. Donc ça signifie qu'il y a eu déjà un couac à ce niveau-là. Donc je pense qu'en parlant de bonne gouvernance, il y a eu des défauts, il y a eu des manquements. Concernant les responsabilités, parce que vous me parlez d'institutions et des manquements, concernant la bonne gouvernance, je pense que le rapport d'enquête parlementaire est clair. Vous avez 4 sociétés dirigées par une directrice générale. Vous avez la responsabilité de ces 4 sociétés chinoises. Vous avez la responsabilité des membres du gouvernement ou bien des départements ministériels qui avaient en charge la délivrance, la vérification justement des cahiers de charges de ces 4 sociétés. Donc voilà à mon niveau d'abord les premiers degrés de responsabilité et au niveau des institutions. Mais pour l'instant, je pense que ce n'est que la première enquête parlementaire. Je ne sais pas si les députés vont transmettre ça au niveau de la justice, peaufiner l'enquête et aller en profondeur afin que les responsabilités les plus évidentes soient dégagées. Et en plus de ça, il y a eu 20 permis délivrés à raison de 5 par société, toutes dirigées par la seule et même personne, ce qui est extrêmement grave.
Donc finalement, c'est un réseau alors?
Je ne l'affirme pas. Je pense qu'il y a eu les parlementaires qui nous ont édifiés à travers leur enquête, mais je souhaite que ce rapport d'enquête soit transmise et à la Cour des comptes et au niveau du pouvoir judiciaire, Monsieur Kouena.
Honorable, nous nous tournons vers vous. Aujourd'hui, s'il faut situer vraiment la responsabilité, parce que du côté gouvernemental, on évoque cette question des enjeux diplomatiques, qu'il ne faut pas frustrer la Chine parce que c'est aujourd'hui un partenaire économique important. Mais nous savons aussi que en diplomatie, le principe de réciprocité, c'est un principe non négligeable. Aujourd'hui, dans votre enquête, vous ciblez ces entreprises chinoises qui viennent ici mais qui ne respectent pas les lois et règlements du pays. Mais s'il faut situer vraiment la responsabilité, aujourd'hui, le péché, c'est à quel niveau? C'est au niveau du gouvernement et qui doit en faire les frais?
Merci Jean-Fernand Kouena. Je te remercie infiniment pour cette question, je crois, tellement importante, à laquelle je vais chercher à apporter des réponses. Je reviendrai un tout petit peu en arrière pour reprendre un peu les propos de mon frère,
le président
Bindoumi, qui m'a réellement édifié et me fait penser à quelque chose. Avant qu'une société ne commence ces exploitations, il devrait y avoir une audience publique. Cette audience publique qui doit tenir compte, ça je fais une synthèse, qui doit tenir compte de l'avis de la population, qui doit impliquer aussi la société civile, etc. Mais je crois que ça c'est extrêmement important. Lors de notre mission sur le terrain, c'est la première des choses que la population en général a essayé de mettre à notre disposition. Que ces sociétés qui sont dans l'Ouampéndé, qui sont en train d'exploiter de l'or, n'a jamais eu à rencontrer les autorités locales, ni les jeunes, ni les femmes. Nous avons rencontré toutes ces couches-là. Nous avons rencontré les chefs de village, nous avons rencontré les maires, nous avons rencontré les autorités administratives, nous avons rencontré les jeunes, nous avons rencontré les femmes. Tous, unanimement, nous ont affirmé que ces sociétés sont venues s'implanter. Ils se sont levés le matin et ils se sont rendus compte qu'il y a une société qui a commencé à exploiter avec des bruits des machines. Ils se sont demandé qu'est-ce qui s'est passé. Parce que tout simplement, ces sociétés-là ont cette prétention de dire que nous traitons directement avec les responsables à Bangui. Nous n'avons pas besoin de l'avis de la population. Parce que, effectivement, si cette société venait à rentrer en contact avec la population, à discuter avec la population, à avoir l'avis de la population, je crois qu'on aurait évité beaucoup de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais malheureusement, selon les dires de cette population, en unanimité, ces sociétés n'ont consulté absolument personne. Et ça, je tiens à le rappeler ici. Je crois que nous l'avons émis dans le rapport, mais c'est aussi une occasion de le dire que voilà, quand les règles ne sont pas respectées, quand les procédures ne sont pas respectées, nous arrivons inévitablement à cette situation dramatique, voilà, que nous sommes en train de vivre. Je reviens sur la question que vous venez de me poser. La Chine, c'est un partenaire économique important. Mais je crois que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, notre rapport ne met pas en jeu de relations diplomatiques entre la Chine et la République centrafricaine. Nous ne sommes pas en train de parler de la Chine. Nous sommes en train de parler d'une société chinoise, voilà, qui est là et qui, je le souligne, est en train aussi de ternir l'image même de la Chine. Et que, en réalité, si les autorités chinoises qui sont ici dans notre pays assument leurs responsabilités, je crois que c'est à eux de travailler en amont pour que ces sociétés chinoises qui arrivent ne posent pas des actes qui risquent de compromettre à leur image demain. Donc nous ne sommes pas en train de parler de la Chine en général. Non, nous ne parlons pas de la Chine. La Chine, c'est un pays, c'est une nation respectable. Mais nous parlons des sociétés chinoises, voilà, qui viennent et qui le plus souvent arrivent par des circuits que parfois même l'ambassade de Chine n'est pas au courant. Vous savez ce qui s'est passé à Sosona Combo? Les Chinois qui ont été tués. En fin de compte, les gens se sont rendus compte que ces Chinois-là ne sont même pas inscrits ici au niveau de l'ambassade de Chine. Ils ne se sont pas fait recenser. Donc l'ambassade même ne les connaît pas. Ils sont arrivés comment? On ne sait pas. Et donc je crois qu'il y a une très grande responsabilité à ce niveau-là. Hier encore, parce que nous avons effectivement fait un rapport, mais de temps en temps, la population qui nous a vu passer dans l'Ouam Pindé et dans l'Ouam, au fur et à mesure, parfois les gens nous appellent pour nous donner des informations. Nous avons eu des informations fraîches selon laquelle, hier encore, au niveau de Bozoum, on a arrêté un Chinois qui n'avait aucun papier, qui n'avait aucun passeport. Il est arrivé comment sur le terrain? Là, il y a un problème de responsabilité qui s'impose. Est-ce que le gouvernement contrôle effectivement les gens qui rentrent dans ce pays-là? Si ce sont des groupes armés, on dirait qu'ils sont rentrés par la brousse, par des circuits qu'on ne connaissait pas. Mais ce sont des gens qui ont quitté la Chine et qui sont arrivés. Comment ils sont arrivés? Pour ne pas avoir un papier sur eux, une pièce d'identité. On n'en a pas. Mais ça veut dire quoi? Il y a un problème à ce niveau-là. Le département de mines qui a donné ces contrats, qui a signé ces conventions avec ces sociétés qui exploitent, est-ce que ce département-là a mis en place un système de suivi pour essayer de vérifier, est-ce que le contrat que nous avons donné, la convention que nous avons signée, est-ce que les gens respectent effectivement cette convention-là? Est-ce qu'ils sont en train d'exploiter exactement le site pour lequel nous leur avons donné ces conventions? Parce que hier, nous avons aussi appris des choses. Nous avons appris que pratiquement les 19 sites, c'est 4 sociétés au niveau de Bozoum, mais ils exploitent plusieurs sites dans le même WAM en même temps. Ça veut dire qu'ils sont en train d'exploiter ici, l'autre exploite en bas, l'autre exploite plus en amont, l'autre exploite en aval. Et voilà, donc ils sont en train d'exploiter 19 sites d'exploitation. Mais sur les 19 sites, et là, ce sont encore des motifs. Nous allons continuer à faire nos enquêtes. Je dis, on nous apprend que probablement, il n'y a que 2 sites qui figurent et que les autres sites exploités sont illégalement exploités. Ils n'ont pas reçu une autorisation pour exploiter ces sites-là. Et ils sont, ils sont en train d'exploiter des sites pour lesquels ils ne sont pas autorisés à exploiter. Mais ça, à qui la responsabilité? Tu ne peux pas donner une convention à une société d'aller exploiter. La société est en train d'exploiter là-bas et tu restes ici à Bangui, tu croises les bras et tu ne suis même pas pour savoir ce qui se fait exactement sur le terrain, alors que sur le terrain même là-bas, tu as des agents que toi-même as mis là-bas sur le terrain. Parce que si vous voyez bien, sur les feuilles de production, mais il y a des responsables désignés par le ministère qui vivent là-bas sur place et qui ont contresigné cette fiche de production. Ça veut dire que il y a des gens qui sont là-bas. Les DR mines qui sont là-bas. Quel est leur travail? C'est pas de contrôler pour savoir exactement est-ce que les gens respectent. Ils sont dans la limite des sites autorisés ou bien ils sont en dehors et tout ça. À ce niveau-là, je crois qu'aucune autre personne ne peut assumer la responsabilité que le département, voilà, qui est nommé et mis en place par le chef du gouvernement pour pouvoir gérer cette situation-là. Okay. S'il y a des problèmes à ce niveau, je crois que le problème va remonter au niveau de ce département.
Le problème doit remonter au niveau de ce département. Monsieur Joseph Binoumi, lors de l'entretien du ministre des Mines avec la presse sur cette question, le directeur régional de Mines de Louam et Louam Pindé a laissé entendre qu'on ne peut pas faire de l'omelette sans casser les œufs. Mais au regard de tous les problèmes évoqués ici par ce rapport parlementaire, y a-t-il lieu aujourd'hui d'auditer tous les permis et conventions signés par le gouvernement centrafricain des permis forestiers et miniers?
Vous avez entièrement raison. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, je vous avais dit que Ndeke Luka a l'avantage de rebondir en temps opportun sur les grandes questions de notre pays. Et vous avez donc bien fait de mettre cette question sur votre patara de cette semaine. Moi, je crois que c'est une bonne chose. Mais ce que je voudrais vous indiquer, c'est que lorsque un État prend des engagements, l'État doit assumer ses engagements. Par exemple, en République centrafricaine, nous avons l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Et à un moment donné, nous étions en Afrique centrale le premier pays qui était déclaré pays conforme à l'ITIE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les sociétés forestières ou minières qui travaillent en République centrafricaine devraient être identifiées. Et ces sociétés-là devraient justifier auprès de l'initiative qui produit son rapport qu'est-ce qu'ils ont produit dans l'année, qu'est-ce qu'ils ont versé en termes d'impôts à l'État et qu'est-ce que l'État a fait de l'argent qui a été versé. Ça suppose quoi? Ça suppose que ce que j'ai entendu ne devrait pas exister. Donc on ne devrait pas avoir deux sociétés qui s'inscrivent, qui vont être sur l'assiette des sociétés qu'on peut contrôler, et puis qu'il y en a d'autres qui exploitent dans la même conjoncture, sans être capables d'être identifiés par l'initiative, sans être capables de justifier leur production, qu'est-ce qu'ils ont produit dans l'année, sans être capables d'expliquer au peuple centrafricain l'argent qu'ils ont versé à l'État centrafricain, pour que dans le sens de la redevabilité, l'État puisse dire à ses populations, voilà en ce qui concerne les industries extractives, j'ai reçu tel montant d'argent, voilà ce que j'ai fait. Et l'autre aspect sur lequel je voudrais revenir aussi, c'est que ce rapport-là, qui a été produit par l'Assemblée, j'ai dit tout à l'heure que c'était un rapport important, parce que j'ai cherché dans ce rapport pour voir les sociétés qui exploitent dans l'OAM. Ils ont construit combien d'écoles? Ils ont construit combien d'hôpitaux? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour changer l'environnement des populations là-bas? Qu'est-ce que les populations autochtones, on les appelle comme ça, en termes d'impact environnementaux, qu'est-ce qu'ils ont bénéficié de l'exploitation des ressources dans leur localité déterminée? Et si nous n'avons pas respecté ça, et c'est là que je voudrais citer, c'est que nous avons adhéré à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives pour rien. Et j'appelle le ministre Moïdo Kama Robert, qui assure le secrétariat permanent de cette structure, pour qu'il regarde de ce côté-là. Et bien nous, la société civile, nous allons être obligés de regarder. Parce qu'en fait, la société civile, dans l'initiative, a le droit de demander des comptes au gouvernement pour lui dire, mais puisqu'il y a les ressources de l'État qui sont en train de s'envoler, qu'est-ce que l'État a reçu? Parce que dans un état de droit, on doit savoir ce que l'État a reçu. Et on doit aussi demander à l'État, qu'est-ce que vous avez fait de l'argent que vous avez reçu? Puisqu'on nous dit aujourd'hui que c'est la communauté internationale qui nous prend les salaires, qui nous prend ceci, qui nous prend cela, et que la ville de Bangui est éventrée, vous trouvez à un kilomètre du rond-point des routes sens dessous, sens dessus, pratiquement au centre-ville où le goudron est parti partout. Mais cet argent, qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc vous voyez, nous avons au cours de ce débat de grandes questions qui vont dans l'intérêt de notre peuple et qui engagent les responsables de l'État dans les initiatives que nous prenons et pour lesquelles nous sommes considérés comme État par la communauté internationale.
Ok, monsieur Christian Guenébem, en suivant le développement de vos deux co-débatteurs, qu'est-ce que cela vous inspire aujourd'hui, l'aspect de redevabilité de l'État dans l'attribution et qui, in fine, il n'y a pas de suivi pourvu qu'on envoie des entreprises? Est-ce que, en voulant créer les conditions économiques pour le relèvement de la République centrafricaine, le gouvernement ne s'est-il pas tiré une balle dans les pieds?
Moi, je suis désolé, vous parlez de relèvement économique de la République centrafricaine. Moi, je parle d'enrichissement personnel de certains individus. Parce que pour qu'il y ait relèvement économique, il faut qu'il y ait contribution au budget national. Le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, je ne sais pas si vous avez bien écouté ce qu'il a dit. Qu'est-ce que les gens payent? La République centrafricaine a adhéré à l'ITIE, donc l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, mais également à un processus de la société civile qui s'appelle « Publier ce que vous payez ». Qu'est-ce qu'ils payent? Mais ils ne peuvent rien payer quand ils produisent 400 grammes d'or par mois sur un site qui utilise 20 engins lourds. Rien que le carburant, 295 000 litres de carburant par mois coûte plus cher que ce qu'ils produisent. Vous croyez qu'ils vont verser quoi dans la caisse de l'État? Moi, je vais être très terre à terre. Ces Chinois ne peuvent pas quitter à 9000 km pour venir ici perdre de l'argent. Ce n'est pas possible. Lorsqu'ils sont sur site et qu'ils produisent, soit de deux choses l'une, ils sont complètement à côté de la plaque et ils s'amusent à jeter de l'argent par la fenêtre, ce que personnellement je ne crois pas, soit ils ont minoré dans leur déclaration le fruit réellement produit sur leur site. Et moi je pencherai pour cette thèse-là, bien que aujourd'hui ce ne soit que des allégations. Mais le contrôle, il est opéré comment? Mais le rapport de l'Assemblée nationale nous fait savoir, par exemple, qu'à Bozoum sur site, les trois ingénieurs ne sont que des stagiaires. C'est des stagiaires du ministère des Mines. Quels moyens le ministère s'est donné pour contrôler le travail que ces gens-là font? Moi, je m'interroge. Lorsqu'on observe vraiment la succession d'éléments constitutifs de ce dossier,
Je reviens encore sur ce que je disais au départ. Les ministres de tutelle concernés n'ont plus leur place au gouvernement. Et s'ils ne peuvent pas prendre d'eux-mêmes la responsabilité de démissionner, le Premier ministre chef du gouvernement, le Président de la République, ont la responsabilité de les relever. Parce que le Premier ministre, au minimum, a été induit en erreur. On l'a amené à faire des affirmations gravissimes, à rassurer l'opinion nationale. Mais au final, le rapport de l'Assemblée dément tout ce qu'ils ont dit. Dans un pays qui nous est proche par l'histoire et par la culture, le ministre de la Transition écologique vient de démissionner pour des factures de nourriture. Hein. Ah oui, François de Rugy vient de démissionner pour moins que ce qui s'est passé en RCA.
Mais on vous dira que comparaison n'est pas raison aussi.
Comparaison n'est pas raison, mais je dis, nous avons un modèle duquel nous nous sommes inspirés sur le plan administratif et sur le plan de la responsabilité. Moi, aujourd'hui, j'interpelle le président de la haute autorité chargée de la bonne gouvernance. J'interpelle le secrétariat permanent de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. J'interpelle la Cour des comptes. J'interpelle le parquet de Bangui de faire la lumière. Je crois que le rapport de l'Assemblée contient suffisamment d'éléments pour que chacune de ces institutions se mette au travail. Et j'interpelle avant tout et en premier lieu le Premier ministre chef du gouvernement à assumer pleinement sa responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, le scandale se situe à un niveau subalterne. C'est-à-dire des membres de son gouvernement, des gens qu'il dirige. S'il laisse ce scandale prendre de l'ampleur, demain ce sera sa responsabilité à lui qui sera indexée. Je vous rappelle qu'il s'agit de la vie de nos concitoyens, des gens qui sont morts. Oui, quand on parle de la mort des gens par arme à feu, on s'en émoie et on dit que c'est grave. Mais vous pensez que la mort par empoisonnement est moins grave ? Vous pensez aujourd'hui que ces enfants qui vont mourir de faim parce que leurs pères n'iront plus à la pêche, parce que leurs mères n'auront plus de poissons à commercialiser, vous pensez que leur vie à eux a moins de valeur que la nôtre ? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ce que nous sommes en train de parler. Et je dis que le gouvernement a une responsabilité première qu'il faut qu'il assume de toute urgence. Et qu'il faut aujourd'hui que nous réfléchissions à un programme pour venir en aide à ces personnes dont aujourd'hui l'existence même est menacée. Vous nous dites, oui bon mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau de cette affaire, la traçabilité, la moralité des entreprises, est-ce que le gouvernement a pris toutes les dispositions ? Manifestement, non. La réponse est négative. Et aujourd'hui, nous appelons le gouvernement à rattraper les erreurs qui ont été commises. Parce que ce n'est pas de notre responsabilité, c'est de la sienne. Mais avec quelque chose en ligne de mire, vous avez parlé de redevabilité. Oui, mais le président de la République, bientôt, sera amené à rendre des comptes sur la gestion des 5 dernières années. Et ça, ça va être inscrit dans son passif. C'est de ça qu'il s'agit, ce n'est pas d'autre chose. Parce que le Centrafricain n'aura pas d'autre moyen de s'exprimer que par le vote, par la sanction des urnes. Je ne dis pas que le président va être sanctionné, mais j'ai dit dans le bilan de son action, ça va être inscrit de manière négative. Il a un bilan à défendre, qu'il s'organise à effacer ses tâches de son tableau. Qu'il s'organise avec son gouvernement, à faire en sorte que les erreurs qui ont été commises, parce que manifestement il y en a, soient réparées. Et qu'on nous situe de manière précise qui a fait quoi ? Qui est responsable de quoi ? Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de la vie de nos concitoyens.
Ok, il s'agit de la vie de nos concitoyens, M. Karl Blaguet. Quand on voit la dégradation de l'environnement à Sosonakobo, sur le Sanga, et aujourd'hui, Bozoum et Bosangwa représentent seulement la partie visible de l'iceberg. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de l'éthique dans la gouvernance, puisque ceux qui sont à un niveau de responsabilité, non seulement refusent de s'assumer, mais refusent de donner des explications au peuple?
Ah ouais, c'est une question extrêmement pertinente que vous venez de poser là, Monsieur Kouina. Je pense que nous sommes allés à la va-vite. J'avais dit tout à l'heure qu'il y a eu non-respect des procédures. Il n'y a pas eu d'études prospectives au niveau environnemental et au niveau social. Je pense qu'il était, comme l'a dit le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, respecter les audiences populaires concernant l'OAM. Mais l'OAM, la Lobaye, Yaloké et les autres sites dont vous venez de parler ne sont que les sites visibles. Je ne suis pas à même de définir ou de situer où se trouvent d'autres sites qui ne sont pas encore justement nés à la lumière. Je pense que le gouvernement doit réfléchir sur une meilleure expertise préalable à ce genre justement d'investissement ou d'engagement au niveau des sites miniers. Je pense qu'il y a des structures qui sont là, il y a des procédures qui sont là, et si le gouvernement a passé outre, c'est qu'il y a eu des manquements. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est au niveau des départements ministériels, le département des mines, le département de l'environnement. C'est deux départements des comptes à rendre. Et comme c'est un rapport d'enquête parlementaire qui est là, je pense qu'il est du devoir des députés de convoquer, même pour des questions orales, les responsables des 10 départements, des départements cités au niveau parlementaire.
Honorable, vous venez bien d'être interpellé. Est-ce qu'il suffit de rester seulement au niveau de la production de rapports? Parce que le pouvoir de Bangui peut vous dire que jusque-là, le rapport n'est pas encore abouti. Ça veut dire que ce n'est pas encore transmis au niveau du gouvernement pour décision.
Je crois que le but de la mission d'enquête, c'est pas de s'arrêter au niveau de rapport. Le but de l'enquête parlementaire, c'est d'arriver à un changement, d'arriver à corriger ce qui n'a pas été. Je crois que le rapport a donné des indications. Et si vous voyez bien dans notre rapport, nous avons donné des recommandations. Il y a des recommandations qui ont été données. Et je crois qu'on ne peut pas peut-être tout vous dire, mais l'Assemblée nationale est en train de travailler. L'Assemblée nationale est à pied d'œuvre sur ce rapport-là. En urgence, nous avons déjà auditionné le ministre des Mines. Nous l'avons auditionné. Et je crois que le rapport, naturellement, passera nécessairement à la plénière. Les députés seront imprégnés de cette situation et je crois que ça va être l'occasion parce que vous savez, les députés représentent l'ensemble de la population centrafricaine. Si aujourd'hui le site de Bozoum est visible, le site de Sosonakombo est visible, le site de la Lobaye est visible, les autres sites qui sont en train d'être exploités, je crois, seront tôt ou tard visibles parce que dans chaque région, il y a un député qui est quelque part là. Et je crois que le député est directement en contact avec sa population. La population, s'ils ont des problèmes, vont se référer à leur député. Le député portera le problème. Et je crois que ce que nous avons fait aujourd'hui à Bozoum, je le dis, c'est pas uniquement dirigé contre une société d'une nation, voilà, contre les Chinois. Non, c'est pas contre les Chinois. Ça pourrait aussi bien être contre une société italienne. Ça pourrait être aussi bien contre une société sud-africaine. Ça pourrait aussi être bien contre une société française. Ça pourrait aussi être bien contre une société russe. Donc, nous sommes en train de faire un travail dans son ensemble. Ce que, peut-être vous ne le savez pas, effectivement, l'Assemblée nationale continuera à faire son travail, à peser de tout son poids et à utiliser tous les moyens mis à sa disposition pour essayer de redresser cette situation-là. C'est à cela que nous sommes en train de chercher à arriver. Nous allons chercher à redresser par tous les moyens que la Constitution a mis à la disposition de l'Assemblée nationale. Par l'interpellation, s'il le faut, public, par des auditions, s'il le faut, par des motions, s'il le faut. Et je crois que, vraiment, c'est dans l'intérêt de la population. Parce que, comme a dit Nguedebem, nous travaillons pour le pays. Et nous ne voulons pas que, par rapport au comportement d'un certain nombre de personnes qui, par intérêt personnel, sont en train de mettre le pays à mal, à mettre éventuellement aussi, voilà, le président en difficulté lors des moments où il doit rendre compte à la nation, je crois qu'il y a un problème qu'il faut résoudre. Et donc, ce que nous faisons, c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est dans l'intérêt du président de la République parce que, effectivement, la population doit sentir que c'est pas le président de la République qui a envoyé ces avides-là pour essayer de donner des permis, essayer d'exploiter des gens. Non! Il faut que les gens comprennent. Et chacun doit assumer sa responsabilité. Ceux-là qui sont responsables de ces exploitations anarchiques, ceux-là doivent effectivement être poursuivis par la justice, par la Cour des comptes, je ne sais pas quoi, par la Haute Cour de justice, etc. pour que vraiment lumière soit totalement faite et que la population retrouve sa symbiose avec la nature. On ne peut pas détruire une nature avec laquelle la population a toujours vécu en symbiose et qui a toujours été source, voilà, de richesse, de bien-être et de développement pour cette société-là. Ça, nous allons dire non et nous allons continuer à nous battre jusqu'au bout pour dire non à cela jusqu'à ce que la situation change.
Chacun doit assumer sa responsabilité, Monsieur le Président. Est-ce qu'aujourd'hui, cette situation que nous décrions n'est pas la conséquence logique de l'interprétation de l'article 60 par la Constitution qui n'autorise pas la plénière de l'Assemblée, mais seulement le bureau de l'Assemblée nationale à autoriser la signature des conventions et contrats miniers?
Bon, je ne reviens pas sur ce qualificatif, je voudrais que notre débat nous amène vers une solution. Et la solution que je propose est la suivante. Vous savez que nous sommes un état de droit. C'est-à-dire que nous avons l'exécutif qui a à sa tête le chef de l'État et son premier ministre. Nous avons le législatif qui non seulement est le deuxième pouvoir de l'État mais contrôle l'action gouvernementale et nous avons le pouvoir judiciaire. Maintenant, nous avons un message très important rendu public par l'Assemblée nationale. Et à partir d'aujourd'hui, la réponse que nous attendons maintenant, c'est de dire quelle est la réaction de l'exécutif par rapport à ce rapport. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous amenons l'État à fonctionner. C'est-à-dire qu'il faut que l'État, lorsque la représentation du peuple réagit par rapport à une situation, les personnes chargées d'exécuter l'expression du peuple, qui sont l'exécutif, doivent immédiatement donner une réponse à ça. C'est-à-dire que s'il y a une faute, le gouvernement doit dire « je reconnais ma faute, je prends acte du rapport parlementaire, je prends les mesures suivantes qui peuvent être le retrait des permis, la sanction des personnes impliquées, etc. » Donc aujourd'hui, je crois que nous ne venons pas dans ce patara simplement pour parler, mais nous venons dans ce débat pour que le rapport qui a été produit par le Parlement trouve demain une solution. Moi, je pense qu'en sortant d'ici, si la semaine prochaine, on apprend que le gouvernement a été sensible par rapport à ces rapports et que les permis qu'on a cités ont été retirés et puis que des personnes qui ont été impliquées ont été sanctionnées, à partir de ce moment-là, nous disons que notre pays fonctionne. Et je prends à mon compte les propos de mon frère Guenebem qui a dit que nous avons tendance à nous plaire, à nous plaindre des personnes tuées par des armes à feu. Mais nous semblons nous habituer des personnes qui nous tuent autrement que par les armes à feu. Et ça, nous devons faire attention. Parce que si on nous tue par les armes à feu, on peut nous tuer aussi par la destruction de notre économie, on peut nous tuer par la destruction de notre environnement. Et ça, c'est des questions très importantes sur lesquelles nous pensons que le gouvernement doit donner sa réponse immédiatement après la publication du rapport de l'Assemblée nationale.
Une semaine après cette publication, le procureur général tarde à ouvrir une enquête. Qu'est-ce que cela vous inspire, M. Guenebem?
Je ne voudrais pas ici tenir des propos polémiques. Donc je vais m'abstenir de répondre à cette question. Simplement dire que, comme tout Centrafricain, et comme le président de la Ligue Centrafricaine des Droits de l'Homme l'a si bien souligné ici, nous attendons maintenant des autorités compétentes une réaction. Une réaction allant dans le sens de la protection de l'intérêt des populations. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas à dire que nous souhaiterions voir régler le compte de X, Y ou Z. Non, quel est l'intérêt? L'intérêt pour nous aujourd'hui est que l'environnement soit protégé, que les populations retrouvent leur cadre de vie et que les activités économiques, sociales, etc. de la région reprennent leur cours. Seulement, que cela nous serve aussi de leçon pour l'avenir. Les ressources minières de la RCA ne sont pas taries. Les sociétés étrangères vont continuer de venir. Mais il faudrait que nous servions de ces expériences malheureuses pour mieux encadrer ce qui doit venir par la suite. Il faudrait que nous nous servions aussi de ces expériences malheureuses pour que là où les problèmes sont en train d'être créés à l'heure où nous parlons, je vous citerai par exemple Bangandou, je vous dis que d'ici quelques semaines, il y aura le même problème qu'à Bouzoum, le même problème qu'à Sosona-Kombo, parce que lorsque vous entrez en profondeur à 5 km, il y a déjà un désastre écologique à Bangandou. Et c'est encore plus proche de Bangui. Faisons très attention. Tirons les leçons des expériences que nous vivons. Faisons en sorte de construire de manière concertée et dans la synergie la République centrafricaine. Oui, nous avons besoin des investissements extérieurs, mais ces investissements extérieurs doivent être faits dans l'intérêt du peuple. C'est ça aujourd'hui que nous devons retenir. Que nous appelons les responsables à prendre leurs responsabilités, ou tout du moins à les assumer. Et que nous souhaiterions que l'intérêt premier des populations soit toujours mis en avant. Pour le reste, vous avez parlé du procureur général. Je n'ai pas cité que le parquet. J'ai cité d'autres institutions qui doivent aussi se saisir de cette situation. L'Assemblée nationale, je serais presque tenté de dire, a fait sa part. Après, il y a des pesanteurs. L'une des pesanteurs que l'honorable Dylan n'a pas donné ici, mais c'est qu'ils sont en session extraordinaire avec un ordre du jour précis qui contraint aussi l'Assemblée nationale à ne pas avoir la totale liberté de ses mouvements. Et que s'il faille attendre le mois d'octobre et la rentrée pour la session budgétaire, ça nous met loin. Ils sont allés au-delà pour auditionner en urgence le ministre des Mines. Qui pouvait refuser de venir? Puisque l'ordre du jour de la session était clairement et explicitement...
Le bureau de l'Assemblée est un organe...
Oui, le bureau, un organe permanent.
Voilà, donc, sauf que quand sens, il va... Même si nous sommes en intercession, le
mais
bureau...
quand il va s'agir de motions et autres et autres...
Non.
Là est, vous êtes
pas,
limité.
Nous, on n'est pas à ce niveau-là.
Voilà,
nous,
vous
on
êtes
pas
limité.
À ce niveau, voilà, y a un rapport. Vous, le rapport est arrivé, que... on cherche à savoir, on dit, bon, voilà ce rapport, qu'est-ce que le ministre du département concerné en pense? On l'auditionne.
Ça, c'est vous en tant que bureau.
Exactement.
Sauf qu'aujourd'hui, quand on parle de l'Assemblée, nous, on parle des 140, et nous nous attendons à vous voir exercer pleinement certaines prérogatives qui sont les vôtres. Nous nous réservons d'aller plus loin dans ce débat, mais certaines prérogatives ne pourront être exercées que lorsque vous serez en session. Et ça, c'est des pesanteurs.
Ça, c'est
ça veut dire qu'à côté du travail fourni par l'Assemblée nationale, qui est déjà louable, il y a d'autres institutions qui doivent maintenant prendre le relais, intervenir, jouer pleinement leur mission républicaine dans l'intérêt des populations. En fait, c'est de ça qu'il s'agit.
Dans l'intérêt de la population, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, où la République centrafricaine s'engage dans la protection de l'environnement à travers le Fonds vert, quelles sont vos attentes aujourd'hui des autorités pour que la lutte de la République centrafricaine pour la protection de l'écologie, la protection de l'environnement ne soit pas vaine?
Vous savez, l'environnement, hein, au niveau de l'étymologie, signifie l'ensemble des facteurs géologiques, pédologiques et climatiques. Par extension, la nature. Et je mettrai un accent particulier sur la réparation, parce que c'est la population qui a été victime. Concernant Bozoum, la proposition que je vais faire au gouvernement ou même à l'Assemblée nationale, c'est de mettre en place une équipe afin d'évaluer les dégâts, de nous proposer des statistiques, des chiffres bien à l'appui, pour voir quel nombre de personnes ont été victimes de tel cas. Si ce sont des maladies dues justement au mercure, si ce sont des activités qui ont été rompues par rapport à la chaîne pêche et vente de poissons, il faudrait justement qu'il y ait une évaluation justement de tous ces dégâts. De trois, je pense que nous avons ratifié, notamment l'Assemblée nationale a ratifié plusieurs traités concernant la protection de l'environnement et autres. Il aurait fallu qu'avant la signature ou la délivrance de ces permis à ces sociétés, qu'il y ait une expertise très poussée. Ça nous aurait évité justement d'aller aussi loin où nous sommes arrivés actuellement là, Monsieur Kouena.
Ainsi s'achève notre émission Patara consacrée à la problématique d'attribution des contrats et conventions en République centrafricaine. Nous avons reçu autour du plateau Honorable Bernard Dila, député de Ngaoundaye et porte-parole de l'Assemblée nationale. Honorable Bernard Dila, merci.
Merci Jean-Fernand Pouina.
Nous avons aussi reçu Monsieur Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. Monsieur Bindoumi, merci.
Merci beaucoup.
Nous avons aussi reçu Monsieur Christian Nguenebem, secrétaire national aux relations extérieures du KNK et porte-parole du dit parti. Monsieur Christian Nguenebem, merci.
Merci à Radio Ndekeluka et merci à nos fidèles auditeurs.
Nous avons reçu M. Carl Blagué, observateur de la vie politique centrafricaine et sociologue. M. Carl Blagué, merci.
Merci M. Kouena.
Rendez-vous à la semaine prochaine.